Chapitre 58. Le vent filait à travers la ville comme un puissant courant, cherchant à entraîner avec lui tout ce qu'il pouvait vers les ténèbres qui encerclaient le village. Il poussait sur les huisseries, en faisait grincer certaines, et s'introduisait par toutes les fentes en sifflant, pour palper, pour saisir, pour refroidir. Ludivine avait du mal à dormir. Elle avait refusé de s'abrutir avec un de ses médocs habituels. Elle voulait rester lucide, au cas où. Elle se mettait en condition, se préparait au pire, incapable de s'abandonner au repos. Seignon ronflait doucement dans la chambre d'à côté, porte ouverte. L'appartement était petit, et le chauffage avait tardé à le mettre à bonne température, mais au moins, ils avaient un coin à eux. En s'y rendant, les deux gendarmes avaient croisé presque un quart du village. Tout le monde s'était refilé le mot sur la présence des flics et de Français, et ils avaient soudainement tous trouvé un prétexte quelconque pour ressortir, en couple, quelques-uns en famille, juste pour apercevoir ces nouveaux visages. La nouveauté était rare à Val-Segond, des visiteurs en automne et hiver tout autant. Demain, tout le monde ne manquerait pas de vouloir les rencontrer. Le village serait agité. Et cela n'en rendrait que plus compliqué la traque de Brussin, ce qui perturbait Ludivine. La gendarme n'avait pas fermé les stores extérieurs, et elle le regrettait à présent. Les projecteurs posés sur le toit des immeubles illuminaient le rideau malgré son épaisseur, diffusant dans la pièce un halo spectral qui n'aidait pas à se détendre. Pourtant, maintenant qu'elle s'était enfin réchauffée sous ses couvertures, elle ne se voyait pas se relever. Elle n'arrêtait pas de penser à tout le dossier, à tous les noms, à tous les enchaînements, au meurtre, à la psyché de chacun, aux déductions de Richard Michaelis, à la conjuration primitive, à la mort d'Alex, à celle de Cyril Capucin, aux 15 coups de feu, à l'odeur de poudre, aux éclaboussures écarlates. Curieusement, Ludivine n'avait aucun souvenir du visage de Capucin mort. Elle ne revoyait qu'une vague image de corps effondré, avec du sang, mais pas les traits du jeune homme. Elle était en état de choc à ce moment. Tout avait été brouillé par l'émotion. Son esprit moulinait à toute vitesse. Elle était faite pour ce métier. Elle avait une faculté d'analyse exceptionnelle, c'était sa force. Elle faisait humainement ce qu'analyste notebook opérait pour eux. Ludivine le savait, elle n'avait pas fait ce métier par hasard. Ça ne pouvait pas s'arrêter là. À son retour à Paris, elle comptait se battre, faire entendre sa légitimité à l'IGGN, ne pas baisser les bras. Elle serait soutenue par toute la SR. Peu à peu, l'épuisement commença à faire son travail de sape, et lentement, Ludivine glissa dans un état second. Ses paupières se fermèrent, et vint un moment où elle ne lutta plus. Aucune pensée parasite. Elle s'endormit. Son inconscient prit la relève et l'immense classeur de sa mémoire se mit en branle. Les noms, les dates, les lieux, les faits, tout se mélangeait, se recoupait. Les déclarations, les constatations, des cris, des coups de feu, du sang, la peur au ventre, le vent glacial qui voulait arracher les fenêtres pour entrer, la chaleur dans le lit, à transpirer. Les projecteurs partout dans la ville, comme autant d'yeux pour scruter l'arrivée de Gert Brussin. La photo du tueur. Cet homme sans expression, âgé, et ses yeux qui soudain devenaient rouges. Le regard d'un démon. Celui du diable. Et la photo qui se déforme, qui jaunit, tandis que les flammes la brûlent par en dessous. Ludivine se réveilla en sursaut, trempée dans ses draps. Dehors, le blizzard persistait, sinistre. Seignon ne ronflait plus. Elle avait à peine dormi. Une phrase trottait dans un coin de son crâne, vestige de ses pensées nocturnes, déjà en train de se dissiper. Ludivine chercha à la capter avant qu'il soit trop tard. Elle bondit dans son lit. Les mots de Marcus Locard. J'ai toujours su qu'une fois Ferry mort, Brussin allait devenir fou. Qu'il serait un prédateur sauvage. Comment savait-il que Ferry était mort ? Comment le savait-il alors que personne ne le lui avait encore dit? Ludivine tremblait. Elle ne parvenait pas à comprendre ce que cela impliquait. C'était incompréhensible. Il l'a déduit, s'apaisa-t-elle. Oui, il a supposé que Broussin se révélait avec la mort de Ferry. Ludivine réalisa qu'elle était à bout de nerfs. Elle faisait une montagne de n'importe quoi, interprétait avec suspicion le moindre regard. Même Apricant, tout à l'heure, lui avait paru étrange. Et Michaelis encore pire. À présent que Seignon était silencieux, elle en venait même à s'imaginer le pire. Des images terribles. Son collègue mort, gisant dans son sang. Une ombre debout sur le palier, entre leurs deux chambres. Ludivine n'y voyait pas grand-chose. Sa porte était entr'ouverte, comme elle l'avait laissée avant de se coucher. Le seuil était plongé dans le noir. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui te prend ? Il fallait qu'elle se reprenne. Elle faisait un début de crise d'angoisse. Le rectangle d'obscurité face à elle la terrorisait. Une silhouette avec un couteau à la main. Un liquide s'écoulant encore du bout de la lame penchée vers le sol. Elle s'imaginait des horreurs sans parvenir à réfréner son imagination. Elle devait réveiller Seignon. Lui parler. Il comprendrait. Ludivine se leva, et en sentant le froid lui mordre les cuisses, hésita à enfiler son jean sur sa petite culotte. Elle tira sur le pull qu'elle avait gardé pour dormir. Elle ne savait plus quoi faire, l'esprit paralysé par l'épuisement et la peur. Je suis à bout. Elle scrutait le rectangle devant elle. La gendarme s'habilla en hâte, sans quitter le seuil du regard. Elle tira sur le rideau pour laisser passer un peu de la lumière des projecteurs, et le palier entre les deux chambres se dévoila. Personne. Pas une goutte de sang au sol. Bien sûr qu'il n'y a rien. Tu t'attendais à quoi, enfin ? Toujours angoissée, Ludivine approcha de la chambre de son collègue et distingua sa silhouette massive, recroquevillée contre le mur, comme un enfant peut rassurer. Elle fut prise de remords. Elle ne pouvait lui gâcher sa nuit sous prétexte qu'elle était insomniaque. Alors elle songea aux gardes qui veillaient sur l'entrée du village, depuis le salon d'un appartement vide, dans l'immeuble d'à côté. Lui serait heureux d'avoir de la compagnie autre qu'une télévision crachant ses programmes nocturnes sans saveur. Ce n'était pas loin. Il n'y avait qu'une passerelle à traverser. Ludivine détestait ces couloirs rouges. Il ressemblait à l'une de ces perspectives, dignes de Stanley Kubrick. Interminable, mais qui à tout moment, sous l'effet du stress, semblait pouvoir se rapetisser brusquement pour écraser ses occupants. Allez, motive-toi. Elle mit ses chaussures, et le plus discrètement possible, elle attrapa la poignée de la porte et la baissa. La porte refusa de s'ouvrir. Elle répéta le mouvement trois fois avant de comprendre qu'ils étaient enfermés. Le mécanisme du verrou n'était pas un simple loquet à actionner, il fallait une clé, qui n'était nulle part. La jeune femme commença par maudire Seignon d'avoir fermé et planqué la clé, plutôt que de la laisser sur la porte, avant de se redresser tout doucement en reculant. Son cœur s'accéléra d'un coup. Tout ce qu'elle avait ressassé pendant son sommeil était encore bien présent, flottant à la surface de sa conscience. Tous les faits, toutes les déductions. Et brusquement, il lui vint une nouvelle idée. Terrifiante, bouleversante, impensable. Une autre explication qui permettait à toutes les pièces du puzzle de s'imbriquer parfaitement, sans aucun achoppement. Ses jambes se mirent à trembler. Dieter Ferry et Marcus Locard ne s'étaient jamais entendus sur la façon de procéder. Ferry était trop modéré. Il ne jurait que par les enfants parfaits. Pestilence n'avait été qu'un essai à sa mesure. Marcus Locard était parti parce que lui voyait beaucoup plus grand. Et Gert Broussin ne venait pas ici pour le tuer, mais pour lui prêter allégeance. Ce que Broussin avait à peine ébauché avec Sidzinus, Locard, lui, l'avait développé il y a plus de 30 ans. Le chauffeur leur avait dit que c'était une ville fantôme auparavant, et que la mine de zinc avait été rouverte au début des années 90. Pourquoi rouvrir une mine qui avait été fermée faute d'exploitation? C'était l'œuvre de Locard. Il avait recréé une activité, dégageant certes une faible marge, mais qui lui permettait de faire subsister sa communauté. Il avait certainement écumé les prisons, fait passer le mot, de tout temps. Même avant Internet, il avait existé des réseaux de déviants en tout genre, qui procédaient dans le plus grand secret, par courrier, petites annonces ou bouche à oreille. Locard avait usé de tous les stratagèmes, patiemment, pour rassembler autour de lui, pour recruter et repeupler ce bout de terre déserté par toutes les âmes normales. Val Segond était constitué exclusivement de pervers, violeurs, pédophiles et de tueurs. Une gigantesque famille monstrueuse. Locard avait rassemblé toute la lie du monde pour lui offrir une terre d'asile, une aire de jeu rien qu'à eux, sans personne pour les juger, rien que des voisins compréhensifs, des concitoyens prêts à faire bloc tous ensemble pour se couvrir mutuellement. Incarnation même de la conjuration primitive. Ludivine tremblait. Non, c'est impossible. Je délire. C'est impossible. Un endroit comme ça ne pourrait pas exister. Ça finirait par se savoir. L'ordre du temple solaire. Plus de 50 morts, dont des enfants. Waco. 82 personnes, dont 21 enfants morts. Certes, il s'agissait de sectes. C'était différent. Mais tout de même, cela prouvait que des communautés inquiétantes pouvaient subsister pendant des années sans éveiller l'attention. Au Mexique, à Nueva Jerusalén, les habitants faisaient massivement partie d'une secte, professant l'apocalypse et inculquant aux 300 enfants du village ces préceptes terrifiants dans le plus grand secret, avant de brûler les écoles du village et d'attirer ainsi la curiosité. Pire, Adolfo Constanzo et ses adeptes avaient torturé et massacré impunément tout en régnant sur la ville de Matamoros. On pouvait vivre regroupé selon des codes et des mœurs différents, voire pervers, et ne pas se faire repérer pendant des années. L'histoire le prouvait, c'était déjà arrivé. Ludivine se retint à une armoire pour ne pas tomber. La tête lui tournait. Elle ne savait plus que penser. Était-ce elle qui perdait la raison? Au loin, il y eut deux coups secs, étouffés par la distance, par les murs, mais la jeune femme se figea. Deux coups distincts qu'elle reconnut sans hésitation. Des coups de feu. Le garde qui veille sur l'entrée de la ville. Non, elle n'affabulait pas. Il venait de se jeter dans la gueule du loup.